Alors, ce matin, les idoles, comment s'en sortir, c'est mon titre. Alors, je veux vraiment être, je pense que pour ceux qui m'ont entendu déjà, j'essaie d'amener les sujets en douceur. Mais tu sais, la Bible, des fois, là, elle est challengeante, là, elle nous défie. Hein? Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Puis que moi, je pense vraiment que Dieu a, pour chacun de nous, le désir qu'on puisse avoir, c'est un privilège en fait, de l'avoir dans notre vie. Et lorsqu'il nous donne des instructions comme ça, lorsqu'il nous parle de des sujets un petit peu plus chauds, ben, je pense vraiment qu'on doit avoir un cœur enseignable, ouvert. Puis, c'est ce que pendant ma préparation, j'ai voulu faire pour moi-même. Puis, ce sujet-là, je l'apporte parce que c'est un sujet qui m'a touchée dans les dernières années où j'ai fait une formation. Qui m'a amené un regard tout autre sur les idoles. Et c'est, entre autres, ce que je veux vous partager ce matin. Alors, avant d'aller là, on peut-tu regarder un peu ce qui se passe dans nos vies plus légèrement un peu? Est-ce qu'il y a des gens ici cet été qui mettent des passions dans leur vie, là, qui vivent des choses le fun? Personne? Mon dos, c'est plate. My! OK, ben moi... Bon, on a fait du paddleboard, mon mari et moi, sur la rivière qui est très, très haute. C'est le fun, ça. On avait bien une veste, on était sécurisés, inquiétez-vous pas. Vous n'avez pas de passion, vous n'avez rien de ça que vous mettez en action dans votre vie, que vous aimez, là, tu sais. Moi, je regarde, là, il y a des revues comme Passion Masquis. Je vois des pêcheurs, moi, ici, là. Ouais, Passion Soccer aussi, c'est une ligue. Ouais, là, je commence à avoir des yeux qui s'ouvrent. OK, super. Alors, la passion, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, hein? C'est en fait la description, la définition du mot passion. Attention, roulement de tambour. C'est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. C'est un amour intense. Hi! OK. Des fois, on aime quelque chose, mais à ce point-là, peut-être pas. Bon, fait que passion, ça vous donne une petite idée où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que vous savez un peu ce que vous faites de votre temps? T'sais, vous dites, moi, j'ai pas vraiment de passion. Non, c'est correct. Je m'intéresse à quelques affaires. Mais la majorité de votre temps, là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes passionné pour la vaisselle? Ben, vous êtes chanceux. Pas moi. Pas tout, je vous le dirai. Alors, est-ce que vous êtes passionné peut-être par Netflix? Ben, écoutez, si c'est une passion parce que ça prend la majorité de votre temps, ça se peut. Mais c'est ça, en réalité, la passion touche à notre temps aussi. Et c'est un moteur d'action et c'est un moteur d'engagement, la passion. Hein? Ça veut dire que quand on a une cause qui nous tient à cœur ou quelque chose qu'on aime particulièrement fort, assez pour dire que c'est une passion, on est prêt à s'engager, on est prêt à aller plus loin, on est prêt à passer notre temps à ça. Hein? Alors qu'il y a certaines différences entre les passions puis les idoles. Et aussi entre la religiosité, si on peut dire aussi. On va regarder ça en même temps ce matin. Puis on va regarder comment s'en sortir, en fait. Parce que c'est pas mauvais d'avoir une passion, c'est pas mauvais d'avoir des intérêts. On va regarder ensemble où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Vous savez, mosaïque, c'est trois mots, hein? Joie, simplicité, passion. C'est pas une passion pour Netflix. C'est une passion pour Jésus. C'est une passion pour le suivre. Puis c'est beaucoup ce dont l'idolâtrie parle aussi dans la parole de Dieu. Allons plus loin ensemble. Donc, on commence par une définition. Moi, j'aime bien mettre un peu la table. Donc, mais qu'est-ce que l'idolâtrie en réalité? Hein? Parce qu'on connaît la signification de l'Ancien Testament, Nouveau Testament. L'idolâtrie est beaucoup reliée à cette fameuse croix qui fait parler, qui fait pas forager. Sincèrement, on va aller voir c'est quoi l'idolâtrie. Et on est loin de la croix de bois en arrière de moi. La signification selon Timothée Keller, un auteur, en tout cas, vous irez voir ce qu'il fait, lui, là, il est très, très, très intéressant. C'est entre autres un des auteurs que j'ai retiré beaucoup de textes sur ce sujet-là parce que c'est de lui la formation que j'ai faite. Alors, tout désir qui a grandi jusqu'à devenir une exigence qui consomme et dirige nos cœurs. L'idolâtrie, il s'agit de quelque chose que nous jugeons nécessaire pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons satisfaits ou en confiance. En d'autres termes, il est question de quelque chose que nous aimons, que nous craignons ou en laquelle nous avons confiance. Avez-vous entendu la mouche? Hein? C'est ça l'idolâtrie. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on désire quelque chose plus que Dieu, à chaque fois qu'on met notre confiance dans quelque chose, plus qu'en Dieu, à chaque fois qu'on fait ne serait-ce que craindre aussi, hein, avoir des inquiétudes, c'est qu'on met en fait notre confiance, notre crainte dans quelque chose qui est un faux Dieu. On y va avec les versets dans Jacques 4. Là, je vous le dis, c'est un sujet léger pour l'été. Tout léger. Mais rappelez-vous toujours que derrière chacun des textes, c'est l'amour de Dieu qui est là. Et c'est pour notre bien. Et on doit tout être, je crois, ouvert à ce que Dieu nous apporte. Et ce matin, on y va avec le sujet des luttes, des querelles qui sont en lien avec l'idolâtrie. Donc, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, ce qui veut dire plus dans le sens de la colère, de la jalousie et non pas un meurtre franc. Vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. On va regarder un petit peu les mots qui sont en gras ici. Alors, les idoles, ça mène aux disputes. Ça mène à l'orgueil. Pourquoi? Bien, en fait, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui prend tellement place dans notre cœur, dans nos préoccupations, c'est quelque chose qu'on va être prêt à se battre pour. Hein? Et ça, bien, ça veut dire que si j'ai quelqu'un à côté de moi qui n'est pas d'accord avec mes valeurs, avec qu'est-ce que je crois, ou au sein de l'Église également. Là, on n'est pas dans les croyances qui sortent des murs d'ici. Là, on parle des gens qui sont assis à côté de vous. Alors, si pour moi, je tiens à quelque chose et que pour moi, c'est une conviction, bien, il se peut fort bien que je finisse par être en désaccord à un tel point que mon orgueil n'accepte pas que la personne à côté de moi essaie aussi d'avoir raison ou que il y a une dispute qui s'installe, qu'il y ait la querelle qui s'installe complètement un rejet de cette relation-là, ben parce que je ne suis pas d'accord avec elle puis que c'est donc bien grugeant puis c'est donc bien poche puis que je décide que je vous la laisse de côté parce que moi, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je n'ai jamais entendu ça. C'est sûr. Alors, ça mène à l'éloignement de Dieu, parce que Dieu, c'est tout le contraire de ce qu'il veut pour ses enfants. C'est tout le contraire de ce qu'il veut dans l'Église, mais c'est tout le contraire de ce qu'il veut qu'on projette aussi, parce que Dieu est amour. Et ça mène aussi, malheureusement, à l'anxiété et à l'inquiétude et les préoccupations, l'idolâtrie. Ce matin, lorsque Josiane a apporté le verset qu'elle a apporté, j'ai trouvé ça très, très intéressant de remarquer qu'elle avait été inspirée sur les inquiétudes et que c'est là également que Dieu m'avait inspirée cette semaine pour le sujet de l'idolâtrie. Parce qu'il y a énormément d'anxiété dans notre monde. Il y a énormément de jeunes, de moins jeunes, qui vivent de l'anxiété généralisée. Donc, je veux dire que n'importe quoi, en fait, peut réveiller un sentiment de pas être en contrôle et de se mettre à faire des crises de panique, de l'angoisse. Alors que si on voit que Jésus est toujours, toujours au centre de tout et qu'on lui fait confiance en toute chose, et je le sais qu'on est toutes sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est vraiment pas faisable d'être en confiance que Dieu contrôle tout en toute chose et tout le temps. On est humain. On est pécheur, mais on va voir tantôt, il y a des solutions avec ça. Alors, le but de l'ennemi, c'est quoi? Voler? Détruire? Anéantir? Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a l'idolâtrie qui est très présente dans notre vie? On a des disputes de l'orgueil, c'est le fruit de l'ennemi lorsqu'on on laisse placer ça, c'est le fruit de la chair. Alors, Dieu veut juste qu'on soit proche de lui. Alors, poursuivons dans sa parole. Jean 4, verset 3 à 5, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, c'est la suite du verset qu'on vient de lire. Hein? « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, ce qui veut dire ennemi de Dieu, contre Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie, qui veut dire la relation d'exclusivité que Dieu veut avec nous, que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. » On va regarder certains mots encore une fois dans ce verset-là. Donc, le monde ici dans lequel on voit que l'amour du monde est inimitié, c'est le monde selon le terme grec qui veut dire « cosmos ». Et ce terme-là, en fait, ça veut dire les biens terrestres. Ça veut dire tout ce qui nous pousse au désir de posséder. Tout ce qui nous pousse au désir d'envier, de convoiter. Alors, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Ce monde-là, c'est la vie sans Dieu, en fait. Puis ça ne désigne pas aucunement les gens qui ne connaissent pas Dieu. Hein. C'est, en fait, Dieu a donné lui-même son Fils pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a aimé le monde pour, justement, faire découvrir son amour à ces gens-là puis pouvoir les sauver. Donc, c'est pas le même mot qu'il répète ici, hein, parce que nous, en fait, notre mission, lorsqu'on veut suivre Jésus puis qu'on veut pouvoir partager son amour, bien, c'est d'aller vers le monde pour le faire. Donc, on est ailleurs. Dans le terme « monde » ici, c'est vraiment le fait d'avoir des désirs au niveau des plaisirs et des avantages que la terre, que ce qu'on vit sur terre nous offre. Passons au Dieu jaloux maintenant. J'ai mis en parenthèse que c'est une relation d'exclusivité, mais en fait, ça veut dire que c'est en fait que Dieu, il y a quelque chose qui doit être de retour à lui, en fait. Hein. Dieu nous donne des choses. Dieu, ça lui revient qu'est-ce qu'on est lorsqu'on l'accepte dans notre vie, l'amour. Lorsqu'on accepte Dieu dans notre vie, on veut avoir, cette relation d'exclusivité-là avec lui, même si c'est vraiment pas évident, mais lui encore plus que nous. Lui, il veut être encore plus proche de nous. C'est un privilège extraordinaire qu'on a. Et lorsqu'on dit que Dieu est jaloux, c'est pas la jalousie du péché qui relie à l'envie et à la convoitise. Quand Dieu est jaloux, ça veut dire qu'il veut l'exclusivité entre nous deux. Dans la relation, si vous pensez à un mari, là, mon mari, là, je me mets sur le spot le matin, il n'aimera pas ça, il ne viendra plus s'asseoir en avant. Mais si, moi, là, j'ai 3-4 hommes autour de moi, là, ben là, je veux dire, c'est un peu normal qu'ils soient jaloux, on est d'accord. Ben, c'est que c'est exclusif, on s'est promis, on a fait les vœux, devant Dieu, on a dit qu'on voulait jusqu'à la mort être ensemble. Donc, il y a une relation d'exclusivité ici. Alors, c'est la normalité que Dieu veuille ce qui lui revient, donc l'amour qu'il nous donne, puis qu'on lui redonne à lui. Vous me suivez? OK. Alors, c'est Dieu qui veut nous transformer. Et lorsqu'on parle d'idolâtrie, on a besoin de lui. Pourquoi? Bien, en fait, c'est que c'est un processus. C'est un processus lorsqu'on accepte de suivre Dieu dans notre vie. Le fait de vouloir être avec lui ne veut pas dire que du jour au lendemain, on est blanc comme neige entre nous. On est blanc comme neige, oui, à sa vue, à lui, parce qu'il nous voit à travers Jésus. Parce que Jésus, il est venu donner sa vie pour prendre tout ça, prendre nos fautes, prendre tout ce qui était... dégueulasse aux yeux de Dieu. Mais c'est ça pareil. Alors, à travers Jésus, il nous voit comme étant blancs, purs. Mais en réalité, lorsqu'on décide d'aimer plus autre chose que lui, bien, on est comme en train de se salir à nouveau. Alors, Timothée Keller nous dit que ce n'est pas ce que nous voulons le problème, en fait, hein, mais que nous le voulons trop. Alors, tantôt, je parlais de passion, je parle d'intérêt, d'engagement. OK, il y a d'autres choses que vous pouvez aimer que Jésus, puis l'Église, puis la parole de Dieu, là. Mais à quel point? En fait, c'est que souvent, on va être porté à justifier qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qui prend la place de Dieu. Oh non, pas vous. OK. Moi. Clairement que je me justifie, moi je suis de même dans la vie de toute façon. C'est comme si j'ai besoin d'explications pour tout. Alors que lorsque parfois on va, tu sais, ce matin on se parle de certains sujets comme ça, mais on peut argumenter et dire oui, mais attends pas, là, tu me dis que tu sais, je peux idolâtrer le désir que mon mariage aille bien, que mon mari soit consacré, qu'il serve Dieu et tout. Bien, c'est ce que Dieu veut. Oui, c'est ce que Dieu veut. Mais à quel point est-ce qu'en tant que personne humaine, je peux contrôler ça? À quel point est-ce que ça ne va pas devenir, lorsque je deviens, que je mets mon mariage en idolâtrie, lorsque je décide, OK, moi là, je vais vraiment m'arranger pour que mon mari, là, il soit le mari... parfait, là, qu'il va être le chef, le leader. Mon mari, je veux qu'il soit impliqué avec les enfants, qu'il joue avec eux, qu'il m'aide dans les choses ménagères. Puis en plus, en tout cas, regarde, on peut en donner des listes, là. Je pourrais demander une couple de femmes, là, de poursuivre, puis après ça aux hommes. Mais si ça, c'est pas fait, mais non, mais c'est parce que, tu sais, Dieu, il dit ça, puis il veut ça. Oui. Mais où est-ce que je m'en vais si ça déclenche des disputes et des querelles dans mon couple? Parce que c'est rendu tellement de préoccupation pour moi que je me base même plus sur ce que Dieu veut réellement. Dieu veut quoi? Il veut que je respecte mon mari. Mais j'ai pas de contrôle sur lui. Alors que si je mets tout autour de cette relation-là, si je, par exemple, moi, j'ai été dans une famille séparée, là, mes parents étaient séparés, et j'ai eu sincèrement, puis j'ai à me battre avec ça, même régulièrement, de voir encore des couples qui se séparent, puis devenir anxieuse par rapport à ça, puis de me dire, oh mon Dieu, mais je ne peux pas faire vivre ça à mes enfants, puis je ne peux pas vivre ça, puis ça, c'est des discours qu'il y a dans ma tête, là. Mais ça prend la place de Dieu, parce que, en fait, si je décide que je remets mon mari, mon mariage, ma famille à Dieu, mais je vais lui laisser le contrôle, puis je vais lui laisser me guider dans ça aussi, puis je vais lui faire confiance à Dieu pour qu'il puisse être au-dessus de toute chose et pouvoir se manifester dans ma vie où est-ce que je lui demande. Parce que c'est ça sa vraie volonté. C'est pas juste que mon mariage aille bien, c'est que je le laisse être le chef, être l'autorité avant tout. Dans le fond... Il y a énormément de choses qu'on peut voir comme idolâtrie. On va en nommer quelques-unes. Mais Dieu nous donne l'intelligence, puis il nous donne aussi le discernement. Donc, oui, intelligence, oui, discernement, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi être capable de vouloir voir avec nos yeux ici, puis avec nos pensées? Puis ça, là, c'est difficile. Puis je vous avoue que, avant de vous apporter ce message-là, j'ai dû m'introspecter. Demander à Dieu de me montrer aussi où est-ce que moi aussi j'en ai des idoles. Puis je pense que chaque personne qui vous apporte un message ici, c'est quelque chose qu'on fait. Parce que on n'est pas juste là pour vous dire quoi faire. Mais on est tout aussi humain que vous. Puis, dans les derniers mois et surtout dans les derniers temps, Dieu a mis des doigts sur certaines choses, mais c'est pas à cause que maintenant je vois de plus en plus qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu dans ma vie que je vais me cogner sur la tête et que je vais me décourager. En fait, dans notre monde dans lequel on vit encore une fois, dans notre société, on entend beaucoup « Ah oui, mais mon besoin à moi ». Non, puis je ne veux pas ridiculiser ça, là. Je vous apporte un message là-dessus il y a je ne sais pas combien de mois, là, mais en tout cas, dans le sens qu'on a des besoins, puis il faut faire attention à nous quand même, il faut prendre le temps de se retirer, prendre des temps avec Dieu, puis OK, vous m'entendez là, hein? Je vous m'interprétez pas mal, là. Mais si mon besoin à moi passe toujours par-dessus Dieu, là, on peut se poser des questions. L'argent et tout ce qui nécessite de l'argent. Les voyages, le matériel, ma carrière, mon statut social, ce que j'ai de l'air, le paraître, que mon apparence, le regard des autres, est-ce que ça prend plus de place que le fait de parler de ma foi? Est-ce que mon mariage ou le désir de me marier va prendre plus de place aussi que ce que Dieu va me montrer? Est-ce que d'être sur mon X, la nouvelle mode, là, c'est un terme ça, être sur mon X, hein? Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, je veuille tellement trouver ma place, trouver ce qui me satisfait dans la vie, que ce que Dieu veut en réalité, c'est simplement que je me repose en lui, qu'il me guide où est-ce que je vais, et que peut-être que dans ce moment précis-là, je ne me sens pas nécessairement à ma place, mais que peut-être que lui veut que je sois là quand même, mais que je fais juste chercher puis m'inquiéter pour être sur mon X, puis exagérer sur mes recherches, puis sur le temps que je passe là-dessus. Puis encore là, c'est correct d'aimer ce qu'on fait, puis c'est correct d'être placé où est-ce que Dieu nous donne des dons, puis d'aller vers ce que Dieu nous montre. Mais est-ce que ça prend la place de Dieu? À quel point est-ce que je vais être préoccupée par ça? Il y a énormément de choses. Il peut y avoir aussi mon église. Il peut y avoir mon ministère qui devient même une idole. Ça se peut que j'en oublie Dieu tellement que je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais encore là, les meilleures choses en apparence peuvent être quelque chose qu'on pense vraiment qui est bon puis qui est dans la volonté de Dieu, mais qui devient une idole pour moi. Matthieu 6, 21 nous dit, Jésus nous dit, « Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Michel Quesnel, un auteur et théologien, nous dit en d'autres mots que si nous cherchons notre bonheur à quelque part d'autre, c'est là qu'est notre Dieu. Et à la recherche du bonheur, il y en a beaucoup de choses. J'ai passé mon premier point, je m'excuse Pierre-Luc, merci. En fait, on va, comment s'en sortir, j'ai dit ça au début, hein, mais oui, on va regarder 4 points. Identifier mes idoles. Donc, demander à Dieu, hein, qu'est-ce qui m'inquiète, qui me met en colère si je ne contrôle pas? Qu'est-ce que je crois nécessaire pour me sentir satisfaite? Est-ce que c'est d'avoir des enfants? Est-ce que c'est d'avoir une maison? Est-ce que c'est d'étudier dans tel domaine? Est-ce que c'est d'être mariée? Est-ce que c'est d'enfin atteindre ce poste-là au niveau de mon travail? On en a parlé certaines affaires tantôt. Est-ce que c'est d'être super en forme physiquement? Puis mais que je sois rendue là, je vais enfin être satisfaite. Alors, qu'est-ce qui me satisfait? Qu'est-ce que je crois qui peut être nécessaire? Et qu'est-ce qui motive ma réaction à propos d'une dispute? Qu'est-ce qui vient nous chercher? Moi, c'est un des points qui m'a le plus touchée lorsque j'ai vu les idoles d'une autre manière. Lorsque quelque chose... Moi, je suis quand même expressive et parfois, « Ouais, ben il faut que je me contienne. » Puis il y a des choses que je me dis, hey, « Mais pourquoi ça vient me chercher autant? » Il y a peut-être une idole en arrière de ça. Puis il faut prendre le temps de demander à Dieu de se retirer, d'explorer ça. Une fois qu'on a fait ça, ben maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Quand Dieu met le doigt sur les idoles qu'on a dans notre vie, bien Jésus le dit dans ses évangiles, il y a énormément d'endroits dans le Nouveau Testament qui nous parlent de se repentir. Mais se repentir ne veut pas nécessairement dire juste se confesser. Hein. Se confesser, c'est une chose. Je le dis. Je dis, hey, tu sais, bon, ça a pris la place de Dieu. Je le sais que je suis tellement inquiète pour mes enfants que j'en vois même plus que Dieu peut faire quelque chose, puis je prends le contrôle sur tout, puis j'endors pas la nuit. OK, je le confesse. Maintenant, si je me repens, qu'est-ce que je fais de plus? Ça dit, en grec, c'est le mot « métanoéo ». C'est vraiment pas mon langage Ah, je recommence. Métanoéo veut dire changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Ça veut dire que je veux vraiment changer. Je veux vraiment aller ailleurs. Je ne peux pas juste dire, « Oh non, mais Seigneur, j'ai fait ça, je te demande pardon. » Oui, il faut lui demander pardon. Oui, il faut se confesser. Mais il faut avoir le désir de changer de direction. Puis quand on se repent, en fait, oui, il y a quelque chose de concret lorsqu'on le fait, mais entre nous, je pense qu'il faut avoir quelqu'un envers qui on est redevable. Avoir quelqu'un envers qui on peut dire, « Écoute, quelqu'un de confiance. Là. Écoute, je me bats avec ça. Je trouve ça difficile, ça revient toujours. » Si vous êtes redevable envers quelqu'un, vous allez pouvoir prier ensemble. Vous allez pouvoir vous soutenir. Puis les idoles, là, ben, on va en avoir toute notre vie. Parce qu'on est dans un monde, malheureusement, oui, là, c'est autour de nous. Et en fait, dans Jean 5, 16, ça dit « Confessez donc vos péchés, hein, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Alors, on a besoin d'une guérison. Se repentir et se confesser, c'est pour en aller jusqu'à la guérison. Alors que Jean 4, je continue le même verset que tantôt, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Nettoyez, qui veut dire libérer de culpabilité du péché, vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Se repentir, confesser, c'est ça que ça veut dire. Et lorsque on arrive là, souvent on a tellement honte de ce qu'on fait et de ce qu'on vit qu'on va être porté à s'isoler. Mais non, parce que ça aussi c'est encore un but de l'ennemi. Puis c'est contraire à ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on se soutienne les uns les autres. Il veut qu'on prie les uns avec les autres. Comme dans Romains 8, on le voit, hein, qu'il n'y a aucune condamnation sur nous puis que Jésus-Christ est venu nous donner cette liberté-là, justement. En troisième point, on doit mettre sa confiance en Dieu. J'en ai parlé tantôt, tout ce qu'on craint, tout ce qui nous inquiète. Mais en réalité, dans Matthieu 6, ça dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le manque de confiance qu'on peut avoir en Dieu, c'est lorsqu'on le met souvent dans autre chose. C'est lorsqu'on le met dans la sécurité financière, dans la sécurité d'un mariage, dans la sécurité ou le confort du matériel qu'on peut avoir. C'est les choses, en fait, hein, qu'on met notre confiance dans des choses qu'on voit et dans des choses qu'on peut contrôler aussi. Alors que il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Et l'inquiétude, dans le fond, la peur et l'inquiétude, c'est comme un symptôme. Fait que lorsqu'on s'inquiète, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui m'inquiète? Mais pourquoi? Mais quelle est l'idole derrière ces inquiétudes-là? Un petit truc. Gardez des traces de ce que Dieu vous révèle. Gardez des traces de ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez, que Dieu va venir vous montrer. Moi, j'ai un livre rose, là, il est gros de même, là. Il tient plus, là, il se brise, là, la couverture, quand je la mets sur mes jambes, je deviens toute blanche, même s'il est rose, c'est louche. C'est que ce livre-là, depuis 2012, mes combats, mes prières, mes choses qui sont intenses, là, que je sais que c'est vraiment gros pour moi, je les ai écrits là-dedans. Et dernièrement, j'ai quelque chose que Dieu a mis le doigt dessus. Et j'ai retourné dans mes dernières années. 2012, ma fille est née en 2012, elle a 10 ans, 11 ans au mois d'août. Ça fait 11 ans ce livre-là et j'ai le même défi qui revenait encore et encore. Ouch! Ça m'a fait mal. Mais quand on garde des traces, moi j'oublie, vous n'avez aucune idée, j'oublie. Alors que les traces que Dieu me met dans mon cœur, en fait, à mettre sur papier. C'est ça qui m'aide aussi à amener plus loin ma réflexion avec lui. En quatrième point, et dernier point, veillez sur notre âme. Deutéronome 4 nous dit « Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et en leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel et tout entier. » Il y a des choses que Dieu nous donne, des bénédictions que Dieu nous fait part, qu'il nous laisse, qu'il nous confie, mais qu'on en fait des idoles. C'est triste, mais si on peut demander à Dieu, si on peut veiller, si on peut dire, Seigneur, aide-moi à être satisfait profondément dans ta présence, profondément dans ta parole, comblée dans mon cœur, de voir qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie et de voir et de s'attacher à ces choses-là qui sont de lui. S'attacher à l'amour, s'attacher à cette mission-là qu'il y a pour nous, s'attacher à, oui, à notre mariage, à nos enfants, à ceux à qui je peux témoigner, mais s'attacher à Dieu avant toute chose et que lui soit la nuée, hein, soit vraiment la base de toute notre vie. Jésus nous ordonne d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de faire confiance à Dieu et à Dieu seul. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu quand il dit qu'il faut aimer Dieu plus que tout, de notre cœur plus que tout, il faut l'aimer de nos pensées. Et lorsqu'on pense en réalité à tout ce qui nous est mis sous la dent, à tout ce qui nous est mis sous les yeux peut-être aussi, lorsque vous allez sortir d'ici, là, même ici, en réalité, moi, c'est le courant qui vient me dans mes pensées lorsque je pense à ça, parce qu'il faut aller à contre-courant. Puis j'ai juste une petite image avant de vous laisser ce matin. En fait, j'ai filmé à côté de chez moi. En fait, on a une rivière, puis à droite, c'est la vue de la rivière pas mal normale. Puis à gauche, là, c'est les derniers temps, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. C'est inondé, oui, mais cette section-là s'inonde toujours. En fait, il y a une île qui n'existe plus présentement. Mais le courant, on est allé, je l'ai dit tantôt, en paddleboard, et on a vraiment eu de la... OK. J'ai vraiment eu de la difficulté à ramer pour revenir. C'était un courant que j'avais jamais rencontré encore dans cette rivière-là. Mais ce qui m'a vraiment fait réaliser à quel point est-ce que, bien, parfois, là, c'est difficile, puis j'ai eu mal au bras, puis ça n'a pas été intéressant tant que ça. Descendre, c'était le fun, je me laissais vraiment amener jusqu'à une partie de la rivière, parce que c'était superbe. Mais il fallait que je fasse attention, parce qu'il y a un viaduc, puis si je me rends au viaduc, bien, ça peut être très dangereux, danger de mort, là, je veux dire. Il y a des gens qui peuvent se noyer, là, s'ils se rendent à des endroits qui sont dangereux comme ça. Alors, il faut que je veille, il faut que je sois sûre, il faut que je sache aussi que quand je vais retourner de bord, si je me suis laissée descendre, bien, qu'il va falloir que je force, puis qu'il va falloir que j'aille de l'aide aussi, hein. Puis mon mari, bien, c'était lui qui m'encourageait, mais il était en avant, puis lui, il ramait, puis il me disait, passe à droite, passe à gauche, il n'a moins. Bien, moi, là, c'était une image pour moi de comment Dieu nous montre comment faire dans notre vie lorsqu'on doit être à contre-courant, puis des fois, c'est pas facile. Puis le voisin, il y a peut-être la belle auto que je voudrais, puis la personne qui est à mon bureau, c'est peut-être elle qui a eu la promotion, puis que maintenant, c'est le poste que je voudrais. Ou peu importe, c'est quoi mon idole. Mais tous ceux autour de moi, malheureusement, ils vont être portés à aller vers ces choses-là. Mais nous, on sait que Dieu peut nous combler. Puis c'est ce qu'on veut aussi apporter à ces gens-là. Alors nous, avant tout, qu'est-ce qu'on doit faire? On en a parlé, mettre notre confiance en Dieu, se repentir, les identifier avant tout, ces idoles-là, mais veiller aussi. Et on ne peut pas y arriver seul. On ne peut pas. C'est tellement gros. C'est tout le monde. C'est tellement tentant. Ça nous allume tellement, là. Le marketing, c'est incroyable. Je ne dis dis pas que si vous travaillez en marketing, là, c'est pas correct ce que vous faites. Mais sérieusement, il faut s'ouvrir les yeux des fois et dire « Oh, ils ont été bons, eux autres. » Ben, moi, je me ferai pas avoir. Fait que, il faut aller contre ça, mais on n'y arrivera pas tout seul. C'est un combat qui est perdu d'avance. C'est Jésus qui l'a gagné, ce combat-là. Ce combat-là, c'est Jésus qui a eu la victoire sur tous les échecs et toutes les choses qu'on peut faire dans notre vie. Puis malheureusement, ben, on est pris dans un esclavage. Quand ça arrive, ça, là. Lorsqu'on est pris, on n'a plus de liberté. Jésus, il est venu à la croix. Jésus nous a libérés de l'angoisse. Jésus nous a libérés de toutes ces choses-là qui nous inquiètent. Jésus nous a libérés de tous ces combats-là même. Ce n'est pas nous qui devons les faire, c'est que lui. C'est à lui qu'il faut que je les remette. C'est à lui qu'il faut que je dise... À genoux, ou en larmes, ou en cri, ou peu importe, il veut t'entendre tel que t'es. Il veut que tu sois vrai avec lui, puis que tu dises « Oui, je le sais que ça, c'est plus fort que ton amour. Oui, je le sais que je t'aime moins que ça. » C'est dur à dire, ça fait mal à dire, mais il faut lui dire. Parce que quand on lui dit, c'est là qu'il vient nous transformer, puis c'est là qu'il vient semer des choses incroyables, puis qu'il transforme notre vie, notre cœur, et nos relations autour de nous. Alors, si tu sens ce matin que tu es pris dans un esclavage, si tu vois déjà où est-ce que Dieu veut t'emmener dans tout ce qui est un idole, peut-être que c'est quelque chose que tu t'es tout le temps dit, « Ben non, mais là, pas une idole, là, je veux dire, tout le monde fait ça, ou tout le monde est là, là je veux dire, c'est 2023 au Québec, là. » Ben oui. C'est ça, toi. Sois à l'écoute. Demande à Dieu. Puis ce matin, ce que j'aimerais pendant que les musiciens vont s'approcher, ce que j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder, c'est combien est-ce que on n'est plus esclave. Combien est-ce que, par exemple, le verset qui nous dit que nous ne servons plus l'ennemi. Nous ne servons plus le péché. Il ne règne pas sur notre vie. Oui, ça arrive que je peux faire des faux pas, puis ça arrive qu'il y a des choses qui viennent plus importantes que Dieu dans ma vie. Mais il ne règne pas sur ma vie, il n'est pas maître de ma vie, parce que j'en ai fait le choix, parce que je veux que ce soit Jésus qui soit avant tout le règne, le maître sur moi, sur ma vie, sur mes pensées, sur mes inquiétudes. Alors, ce matin, si tu sens que tu es pris malheureusement dans un esclavage, n'aie pas honte. Ne te sens pas condamné. Parce que Jésus, c'est ça qu'il est venu faire. Puis si on n'y attribue pas ça, bien, il est vraiment venu pour rien. Il est là pour toi. Il veut te libérer de la honte. Il veut te libérer du péché. Il veut te libérer des idoles. Il veut te libérer de cette fameuse pensée que si tu as ça, si tu es comme ça, tu vas être enfin satisfait. Parce que c'est en lui qu'on peut être satisfait. Puis c'est difficile à comprendre ça. Alors qu'il y a juste lui qui va pouvoir nous aider, puis qu'il y a juste en lui qu'on va pouvoir avoir cette certitude-là. Cette satisfaction. Je le redis, ce mot-là, la satisfaction. Tellement un mot qu'on se fait rentrer dans nos têtes. Elle est juste, juste en lui. Alors ce matin, si tu veux confesser, te repentir, si tu veux avoir confiance en lui plus qu'en toute autre chose et craindre une seule chose, Dieu, je t'invite à fermer tes yeux, on va prier, puis lève ta main de ta place. Simplement, lève ta main. Et Dieu va vraiment venir s'adresser à toi si tu lui demandes, si tu te confesses à lui. Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin pour chaque personne ici, Seigneur, qui s'est fait prendre en esclavage, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es le seul et l'unique à qui on doit remettre notre vie, le seul et unique à qui on doit laisser le règne dans nos vies. Mais tu sais combien est-ce que combien est-ce que la convoitise vient dans nos yeux, vient dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cœurs? Combien est-ce que l'envie peut prendre la place? Mais toi, tu nous as libérés. Mais toi, tu as fait en sorte qu'on n'ait plus aucunement de honte, plus aucunement de condamnation, qu'on soit plus coupable, parce que tu viens faire toute la différence. Tu viens nous libérer. On est libérés, on a la paix en toi, on est à toi, Seigneur. Comme on l'a chanté et qu'on va le chanter encore, Seigneur, on est enfants de Dieu. Alors, je te prie que tu viennes semer ça, Seigneur Jésus, dans le cœur de chacun, en profondeur, que la satisfaction d'être comblé en toi, Seigneur, puisse être réelle. Merci, Jésus, parce que il n'y a rien d'autre qui peut faire ça. Merci, Seigneur, pour ton pardon.